Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du 8 mars 2017. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Le maire de Dakar, Khalifa Sall, candidat probable à la présidentielle de 2019 au Sénégal, a été placé sous mandat de dépôt pour détournement de fonds publics.
Célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la femme, nous vous proposons à cette occasion une série de reportages de nos correspondants en Afrique.
Suspension du programme nucléaire nord-coréen et des manœuvres militaires américaines en Corée du Nord. Telle est la proposition du chef de la diplomatie chinoise pour désamorcer la crise.
Discussion sur la situation en Syrie et en Turquie entre les chefs d'état-major turcs, américains et russes. Et pour une précision sur la proposition chinoise pour désamorcer la crise entre la Corée du Nord et la communauté internationale. Le ministre chinois propose la suspension du programme nucléaire nord-coréen et des manœuvres militaires américaines en Corée du Sud.
Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe réunis au Caire mettent en garde contre tout déplacement de missions diplomatiques de Tel Aviv à Jérusalem.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Sénégal, Khalifa Sall, le maire de Dakar, la capitale, a été placé sous mandat de dépôt hier, tard dans la nuit. Il est accusé d'avoir détourné près de 2 milliards de francs CFA, usant de procédés non autorisés par la loi. Deux de ses collaborateurs, Mbaye Touré et Yatma Diao, respectivement directeur administratif et financier et chef de la division financière de la mairie de Dakar, ont subi le même sort. Sur place, notre correspondant Saïdina Abagay.
Le maire de Dakar a été écroué au terme de son audition par le doyen des juges. Il est poursuivi pour détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, complicité de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux en écriture publique et blanchiment. L'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar aura été fatale à l'idylle de la capitale sénégalaise. Khalifa Babacar Sall est accusé d'avoir usé sans justification de fonds politiques de près de 2 milliards de francs CFA. Son avocat, Maître Sirikle Dorli, estime que la justice a été aveugle, sourde et très étourdie. Pour lui, son client est victime d'un plan visant à freiner ses ambitions politiques. Désormais détenu à la prison de Rebeuss, le maire de Dakar a dénoncé une cabale politique de la majorité présidentielle et a appelé ses partisans à descendre dans la rue pour préserver les acquis démocratiques. Juste après son incarcération, les forces de l'ordre ont quadrillé les grandes artères de la capitale pour éviter tout débordement. Saïdina Abagay, à Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Célébration aujourd'hui, mercredi 8 mars, de la Journée internationale de la femme, avec pour thème cette année « Les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030 ». C'est l'occasion de nous pencher sur la place des femmes africaines dans la société. Michel Joseph.
Les rapports publiés par différentes organisations font ressortir des avancées féminines dans divers secteurs. En Afrique subsaharienne, 22,3% des parlementaires étaient des femmes en 2015 contre 8% en 1995, pour une moyenne mondiale de 22,1% en 2015. À l'origine de ce progrès, l'instauration des quotas en leur faveur, par exemple 30% au Rwanda et au Burkina Faso. Dans le domaine de l'agriculture, 40% des travaux sont effectués par des femmes qui produisent 80% des denrées alimentaires. La FAO s'est récemment réunie avec plusieurs organisations pour discuter sur le thème « Aux côtés des femmes rurales, intensifions nos efforts pour en finir avec la faim et la pauvreté ». L'accès à l'éducation diffère grandement d'un pays à l'autre, mais les garçons sont avantagés partout. Selon le rapport « Laissé pour contre » de l'UNESCO, 28 millions de filles et d'adolescentes n'iront probablement jamais à l'école. Cette discrimination s'observe aussi au niveau de l'emploi. 10,6% des femmes sont au chômage contre 8,2% pour les hommes, selon la Banque mondiale.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a appelé mercredi la Corée du Nord à suspendre son programme nucléaire. Et dans le même temps, les États-Unis à stopper leurs manœuvres militaires en Corée du Sud. Et ce, afin de désamorcer la crise dans la péninsule. Usant d'une métaphore ferroviaire, lors d'une conférence de presse à Pékin, M. Wang a mis en garde contre une collision en Corée entre deux trains qui accélèrent l'un en face de l'autre sans qu'aucun des deux ne veuille céder le passage.
Cet échange de suspension pourrait permettre de ramener les parties à la table de négociation, a expliqué M. Wang, deux jours après les tirs de missiles nord-coréens, dont trois sont tombés dans les eaux japonaises. En réponse, les États-Unis avaient annoncé mardi le début du déploiement de leur système de bouclier antimissile THAAD en Corée du Sud, une décision fermement combattue par Pékin qui y voit une atteinte à l'efficacité de ses propres missiles.
Les chefs d'état-major turcs, américains et russes se sont réunis hier en Turquie pour discuter notamment de la situation en Syrie où les trois pays combattent le groupe État islamique, mais en s'appuyant sur des camps rivaux. Des détails avec Jacques Aristide.
Cette réunion exceptionnelle survient au moment où Ankara s'oppose à la participation de milices kurdes soutenues par Washington. Les tensions sont cristallisées autour de la ville syrienne de Minbej, d'où la Turquie veut chasser ses groupes armés kurdes, mais les États-Unis y ont déployé des militaires et la Russie des véhicules de transport blindés. C'est dans ce contexte que les trois chefs militaires, le Turc Hulusi Akar, l'Américain Joseph Dunford et le Russe Valery Gerasimov, discutaient hier à Antalya de questions sécuritaires régionales communes, à commencer par la Syrie et l'Irak, pour reprendre les mots de l'armée turque. La rencontre trilatérale intervient également à trois jours d'un déplacement du président turc Recep Tayyip Erdogan en Russie, où il doit rencontrer son homologue Vladimir Poutine. Si Moscou soutient le président syrien Bachar al-Assad et Ankara l'opposition, les deux pays se sont récemment rapprochés sur le dossier syrien à l'heure où le groupe État islamique recule face à la coalition anti-djihadiste et les forces pro-russes.
Pendant ce temps, les forces irakiennes ont accentué mardi leur progression dans l'ouest de Mossoul où elles ont repris au groupe État islamique des bâtiments importants comme le siège du gouvernement provincial et le musée vandalisé par les djihadistes. La reconquête de trois quartiers a également été annoncée par Bagdad au troisième jour d'une nouvelle offensive lancée pour reprendre le dernier bastion urbain des djihadistes en Irak. Les troupes gouvernementales se rapprochent ainsi de la vieille ville, un secteur densément peuplé où les combats s'annoncent particulièrement ardus.
Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe ont adopté mardi au Caire une résolution contre le déplacement des missions diplomatiques à Jérusalem après la promesse du président américain Donald Trump de déplacer l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Pour la Ligue, tout transfert d'ambassade dans cette ville est une atteinte flagrante aux droits du peuple palestinien et de tous les musulmans et les chrétiens. Le statut de la ville sainte est l'une des questions les plus épineuses du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies.
WikiLeaks révèle un supposé programme de piratage de la CIA. D'après le site créé par l'Australien Julian Assange, l'agence de renseignement américaine peut transformer votre télévision en appareil d'écoute, contourner les applications de cryptage et peut-être aussi contrôler votre véhicule. Précision de Morgane Guiriec.
Les documents publiés hier par WikiLeaks sont présentés comme internes à la CIA. WikiLeaks en a fait paraître près de 9000, estimant qu'il s'agissait de la plus importante publication de matériel secret du renseignement jamais réalisée. De son côté, la CIA n'a ni confirmé ni démenti l'authenticité de ces documents, ni commenté leur contenu. Ces documents montreraient que l'agence de renseignement a élaboré plus d'un millier de programmes malveillants, virus, cheval de Troie et autres logiciels pouvant infiltrer et prendre le contrôle d'appareils électroniques. Smartphones, télévisions connectées ou encore logiciels populaires peuvent être transformés en appareils d'écoute à l'insu de leur utilisateur, affirme WikiLeaks, citant également la possibilité de prendre le contrôle de véhicules grâce à leurs instruments électroniques.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Ultimatum du gouvernement sierra-léonais qui entend lutter contre le cumul des salaires. Tous les employés du privé comme du secteur public doivent s'inscrire avant le 31 mars auprès de la NACIT, la Caisse nationale de sécurité sociale et d'assurance. Inscription qui devrait permettre d'éviter les doubles emplois. En Algérie, malgré une récente amélioration du déficit commercial, le Premier ministre Abdelmalek Sellal a déclaré que le niveau des réserves d'échange passera sous la barre symbolique des 100 millions de dollars en 2017. En juillet dernier, rappellent nos confrères de Jeune Afrique, le chef du gouvernement algérien avait pourtant affirmé que ce montant ne serait jamais atteint, quelles qu'en soient les circonstances. Étranglée par l'érosion du prix du baril du pétrole, l'Algérie continue de puiser dans ses réserves de change. Dans un dernier rapport, la Banque africaine de développement insiste sur l'importance de la baisse des droits de douane en Afrique pour redynamiser les échanges bilatéraux sur le continent. Par exemple, entre 2001 et 2012, les tarifs des pays africains appliqués aux importations depuis le Maroc sont supérieurs aux tarifs appliqués aux importations européennes ou américaines. La BAD relève ainsi une hausse moyenne avoisinant les 4%.
Les sports à présent avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Real et le Bayern en quart de la 8e Ligue des Champions.
Déjà vainqueur à l'aller 3-1, le Real Madrid s'est qualifié pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions en s'imposant à Naples avec un doublé de Sergio Ramos, score final 3-1. L'équipe espagnole n'a plus perdu depuis 12 matchs dans l'épreuve, son record. Et dans l'autre rencontre de la soirée, même scénario qu'à l'aller, défaite 5-1 pour Arsenal face au Bayern Munich. Après y avoir un peu cru en première période, Arsenal a explosé en plein vol face au Bayern Munich après l'expulsion de Laurent Koscielny, une débâcle et une désillusion de plus pour l'entraîneur Arsène Wenger.
Et ce mercredi, c'est au tour de Barça de tenter l'impossible.
Le FC Barcelone qui doit éviter de devenir fou et procéder avec patience ce mercredi pour tenter de remonter les 4 buts de retard face au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'a estimé hier l'avant-centre Luis Suarez, jugeant que ce défi serait compliqué mais pas impossible. Quant à Dortmund, après ce revers 1-0 chez le Benfica, le club allemand peut nourrir de bons espoirs.
Ibrahimovic suspendu avec Manchester.
L'attaquant vedette a été suspendu 3 matchs pour comportement violent, c'est ce qu'a annoncé hier la fédération anglaise. Le Suédois de 35 ans avait donné un coup de coude à un défenseur samedi dernier en Première Ligue. Il n'a pas contesté l'accusation. Ibrahimovic est donc automatiquement suspendu avec effet immédiat de toute compétition confondue. L'attaquant de 35 ans manquera donc l'affiche des quarts de finale de la Coupe d'Angleterre. Ce sera lundi soir contre l'actuel leader de la Première Ligue, Chelsea.
Le CIO à nouveau dans la tourmente.
Et oui, à moins de 2 mois des visites à Los Angeles et Paris, candidate aux Jeux Olympiques 2024, la démission du président de la commission d'évaluation, le Namibien Frankie Fredericks, pour des soupçons de corruption, a mis le Comité international olympique sous pression. Dans un article, le quotidien français Le Monde avance que Frankie Fredericks a reçu un versement de près de 300 000 dollars le jour même de l'attribution à Rio des Jeux olympiques par le Comité international olympique. C'était le 2 octobre 2009 à Copenhague.
La Gold Cup de ce côté-ci de l'Atlantique.
Le Mexique, tenant du titre, affrontera la Jamaïque en phase de poule de la Gold Cup 2017, la compétition continentale de la CONCACAF qui aura lieu cet été aux États-Unis, tandis que le pays organisateur sera opposé au Panama. Selon le tirage au sort hier, le Mexique, sacré à 9 reprises, affrontera également le Salvador et Curaçao. Enfin, les États-Unis, mal partis dans la course à la qualification pour le Mondial 2018 en Russie, retrouveront donc le Panama, un de leurs adversaires des qualifications de la zone CONCACAF, la Martinique et Haïti ou le Nicaragua à la lutte pour le dernier billet. Allez, enfin Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain cette nuit.
Portland et Oklahoma City 126-121 et Los Angeles Lakers et Dallas 111-122.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la Voie de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Rencontre mardi à Abidjan entre le ministre de la fonction publique et les représentants de la plateforme nationale des syndicats des organisations professionnelles du secteur public. Le 27 janvier dernier, ces syndicats avaient suspendu leur mouvement social pour une durée d'un mois. Ce délai a donc expiré sans satisfaction des revendications des grévistes. John Lyndon a joint à Abidjan Théodore Nyanya Zadi, président de la plateforme nationale des syndicats des organisations professionnelles du secteur public.
C'était une rencontre d'information initiée par le Premier ministre qui, lors de la rencontre du 23 février dernier, avait initié un comité de dialogue pour aboutir à une trêve sociale en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour mettre en place ce comité de dialogue que la rencontre a eu lieu. Des documents nous ont été transmis, notamment un arrêté de nomination et de mise en place de ce comité de dialogue.
Qu'est-ce qui a été dit sur la question des arriérés des salaires? Le gouvernement les réglera-t-il? Et est-ce qu'on peut avoir une idée sur les chiffres du nombre de fonctionnaires concernés ici et le montant?
Sur la question des arriérés, rien n'a été dit. C'est la mise en place du comité qui va aborder toutes ces questions. Donc on n'a pas abordé les questions dans le fond. Les fonctionnaires concernés sont un peu plus de 140 000 fonctionnaires. Ils sont concernés par la question du stock des arriérés évalué par le gouvernement lui-même à 249 milliards.
Quel est le jugement que vous portez sur le climat socio-professionnel en ce moment en Côte d'Ivoire?
Actuellement, nos camarades sont déterminés. C'est la mobilisation générale. Ils attendent du gouvernement qu'il fasse un geste par rapport à ce stock-là. Parce qu'il faut préciser qu'ils ne disent pas de tout payer ici et maintenant. Ils souhaitent que le gouvernement fasse un geste en payant quelque chose maintenant et de nous proposer un chronogramme de paiement qui tiendra compte de ses capacités budgétaires lui-même. Donc aujourd'hui, les fonctionnaires sont déterminés, mobilisés et souhaitent, n'est-ce pas, que le gouvernement fasse un geste. Et nous avons bien peur que si rien n'est fait, on soit amené à être devant une situation encore de crise.
Est-ce que votre action ne s'inscrit pas dans la logique de celle qu'on a vue avec les gens de l'armée, par exemple?
Non, nous sommes loin des militaires, nous sommes des fonctionnaires. Où il y a tous les grades, du préscolaire au supérieur, de l'agent de la santé, enfin, tout ce que la Côte d'Ivoire compte d'intellectuels et de fonctionnaires ne peut pas s'inscrire dans une mouvance de grève militaire. Nous sommes dans les revendications syndicales en utilisant, n'est-ce pas, les instruments juridiques que nous offre notre Constitution à son article 17 et sur tout le reste. Donc nous agissons dans ce cadre-là.
Il s'est dit que vous avez programmé de reprendre la grève vendredi. Si rien n'est fait, vous confirmez l'information?
Non. Nous avons une assemblée générale le 10 pour faire le point des négociations à nos camarades qui sont impatients au bout d'un mois de 13 qu'ils ont accordé au gouvernement. Donc c'est à l'issue de cette assemblée générale que nous pourrons dégager des perspectives. Et une grève ne s'initie pas du jour au lendemain. Bien entendu, il faut un préavis qui donne un délai.
Est-ce que vous êtes optimiste après la rencontre avec le ministre de la fonction publique?
Nous avons confiance au gouvernement dans sa capacité à régler nos problèmes. Et c'est pourquoi nous nous posons nos problèmes. Donc nous sommes optimistes que le gouvernement fera un geste pour que le front social s'apaise et que nous allions, n'est-ce pas, dans la sérénité au règlement de nos problèmes, de nos préoccupations, que le pays puisse, n'est-ce pas, avancer.
Théodore Nyanya Zadi, président de la plateforme nationale des syndicats des organisations professionnelles du secteur public.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Maintenant, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, nous vous proposons une série de reportages avec nos correspondants en Afrique. Pour commencer, nous nous rendons au Mali, où notre correspondant Kassim Traoré nous parle de Maïmouna Hélène Diarra. Elle n'est plus à présenter au public malien et africain. Elle a joué dans presque tous les grands films du Mali et de célèbres pièces de théâtre comme Wari 1 et 2. Pur produit du groupe dramatique Koteba National du Mali, Maïmouna Hélène Diarra a été la lauréate du prix des célébrités du cinéma lors de la 25e édition du FESPACO. De Bamako donc, Kassim Traoré.
Née dans les années 60 à Ségou, issue d'une grande famille chrétienne, c'est après les études primaires qu'elle arrive à Bamako pour poursuivre ses études à l'Institut National des Arts
Ina, la section art dramatique.
Ben, je suis Maïmouna Hélène Diarra, comédienne malienne, sino-africaine. Bon, je suis passée par beaucoup de chemins après l'INA. J'étais au groupe dramatique et j'ai passé 10 ans sur le plancher. Et après le groupe dramatique, je suis venue à l'ORVM, à la télé et à la radio. Speaker, Bambara, les avisés communiqués en français en Bambara, les émissions à la télé et à la radio. Sans oublier les sketchs, les films, les théâtres. Parce que avec tout ça, même arrivé à l'ORVM, j'ai pas décroché avec ma vie de comédien.
Comme Habib Dambé le dit, Guimba National, Michel Sangaré, Magman Gabriel Konaté, Fanta Berthe et autres, Maïmouna Hélène Diarra est un pur produit du Coteba National du Mali, qui a fait les plus célèbres pièces de théâtre du Mali.
Les théâtres, les films, le cinéma, la radio, la télévision. Tout ça là, c'est des trucs que j'ai aimés. J'ai pas eu à faire le choix jusqu'à la fin de mes jours. Un comédien n'a pas d'âge. À la radio peut-être, mais la radio, la télévision, parce que présentement, je suis à la retraite. J'ai continué à tourner. Tant que les réalisateurs ont besoin de moi, moi je le fais. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour les comédiens.
Maïmouna Hélène Diarra draine derrière elle une carrière de 30 ans. Après avoir joué dans presque tous les films du Mali, elle donne des conseils à la nouvelle génération de comédiens.
Le travail bien fait, prendre le travail au sérieux, aimer ce que tu fais, c'est ça la clé du succès. La nouvelle génération qui monte vraiment, il faut qu'ils s'améliorent, qu'ils soient formés et écouter les anciens. Dans l'art, on apprend toujours, toujours, tous les jours que Dieu fait, tu apprends. Il faut accepter les critiques. Tant que tu n'acceptes pas les critiques, tu ne peux pas te corriger. Tant que toi, tu es sur scène, tu ne te vois pas. C'est les autres qui te voient. Et quand ils te disent que ça, c'est bien, c'est pas bien, c'est ce qui est la réalité.
Maïmouna Hélène Diarra est la seule comédienne malienne à décrocher le prix de la célébrité du cinéma lors du FESPACO 2017. Ce prix a été initié cette année par les organisateurs du FESPACO pour faire un clin d'œil aux comédiens et autres acteurs du cinéma.
Ça va droit dans nos cœurs. Et ça nous a enchantés. Ça a démontré que ce que nous faisons, ce n'est pas du temps perdu. Ils pensent encore à nous. C'est venu un peu tardivement, mais mieux vaut tard que jamais.
Ces prix-là, ça veut dire que vous devrez continuer.
Bien sûr, même sans prix, moi, je vais continuer. Le théâtre, le cinéma, c'est ma vie.
L'enfant de Ségou fait aussi la teinture, la transformation des produits agricoles. Elle vend les meilleurs gingembre du Mali en jus et en poudre. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Togo, notre correspondante Kay Lawson nous parlait, elle, de Diana Donsa. Elle a la particularité d'avoir un métier plutôt rare en Afrique, celui de sommelière. Une discipline qui consiste, entre autres, à choisir et à servir les vins dans un restaurant ou dans une grande maison. Diana Donsa, une des rares ambassadrices des vignobles du monde, de Lomé Kay Lawson.
Si Diana Donsa était un vin, on dirait d'elle qu'elle est corsée. À 34 ans, la jeune femme est tombée dans ce breuvage par un concours de circonstances. Il y a 6 ans, alors qu'elle était encore responsable de son propre salon de coiffure, cette dame à l'allure de mannequin décide de devenir serveuse dans une cave à vin pour arrondir ses fins du mois. Très vite, elle prend goût à son nouveau job et c'est le début d'une aventure.
J'ai commencé déjà à travailler avec M. Franck Lenné, qui a une cave à vin. Donc c'est chez lui, j'ai commencé en tant que serveuse. Et du coup, j'ai pris goût au boulot, donc je lui ai demandé de me former un peu dans les vins. Donc j'ai commencé à apprendre comment proposer du vin aux clients par rapport aux plats. J'ai fait 3 ans avec lui. Du coup, je suis passée à l'hôtel Sarakawa en tant que caviste. J'ai fait 1 an, quelques mois là-bas et j'ai postulé pour Radisson Blu et j'ai commencé à travailler en tant que sommelière.
Élégante dans sa chemise blanche et son tablier vert bien en place, elle se trahit avec une tache de vin sur la manche. Sans complexe, elle répète à qui veut l'entendre qu'elle n'a pas fait de grandes études. Après les cours primaires, celle qui a côtoyé John Evra, le meilleur sommelier de France 2007, lors d'un stage de ce dernier à Lomé, n'a pas pu continuer ses études. Défiant les préjugés que seules les études supérieures prédisposent à une bonne carrière, Diana démontre le contraire par son dévouement à la tâche. Esther Cedro, responsable du restaurant Signature, ou officie Diana Donsa.
Diana, c'est quand même quelqu'un de très méthodique, très sérieux dans son travail. Et forcément, ça a une répercussion sur le chiffre d'affaires du restaurant.
Gestion des stocks, réception des livraisons, nettoyage des carafes, recevoir quelques fournisseurs et déguster les nouveaux produits, vérification des températures et bien sûr, mise à jour des cartes, tel est le quotidien de la jeune femme. Pour satisfaire sa clientèle, Diana ne s'empêche pas d'affoler ses papilles. Vous avez peur que je devienne alcoolique? Non, ça n'arrivera pas. Rassure cette mère de deux enfants qui affirme ne pas négliger son rôle de mère au profit de son dévouement à sa profession.
C'est vraiment pas facile d'abandonner les enfants à la maison, partir au boulot. Mais j'essaie de faire quand même parce que mes enfants et moi, on essaie de communiquer, ce qui fait qu'ils comprennent vraiment que quand maman n'est pas là, c'est parce qu'elle est au boulot. Donc, ils essaient de respecter les choses. Je les accompagne à l'école. J'arrive à passer un peu de temps avec eux. C'est pour ça que je cherche toujours l'école où ils vont le matin, ils rentrent à 14h parce que de 14h à 16h, je peux passer au moins une heure, deux heures de temps avec eux, causer avec eux, leur demander qu'est-ce que vous avez fait à l'école. Je leur fais à manger. Et les dimanches, je passe toute la journée avec les enfants.
Il y a quelques mois, celle qui propose une carte de quelques centaines de références s'est inscrite en cours d'anglais et prépare un stage de perfectionnement en France.
Je veux aller suivre la formation dans ce domaine en France, rencontrer un sommelier, visiter les vignerons, voir ce que c'est exactement faire du vin, connaître vraiment le vin. Si un jour on me bandait les yeux pour dire ce que je suis en train de goûter, que j'y arrive à ce point.
Son rêve, décrocher cette fameuse distinction qui consacre chaque 3 ans les grands sommeliers du monde. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Et pour terminer, nous revenons en cette journée internationale de la femme sur un autre cas rare, celui de Sophie Duke, 36 ans et mère de 3 enfants. Elle est devenue la première femme conductrice de bus de transport en commun au Sénégal. Son portrait avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Taille moyenne, teint noir et pleine d'assurance, Sophie Diouk a plus de 20 ans d'expérience dans le milieu de l'automobile.
J'ai toujours aimé la mécanique et les voitures. Au départ, j'étais mécanicienne, mais j'ai très tôt été attirée par le volant, car mes clients qui venaient au garage dépanner leurs voitures faisaient souvent appel à mes services pour leurs déplacements. Par la suite, ils m'ont incitée à me reconvertir en chauffeur.
Au fil du temps, Sophie se détache de la mécanique pour tenter l'aventure dans le milieu des chauffeurs, largement dominé par les hommes.
J'ai conduit des poids lourds et toutes sortes de voitures avant de devenir chauffeur de taxi. Dans les rues de Dakar, je ne voyais que des hommes au volant des bus. Je me suis dit, pourquoi je ne pourrais pas devenir chauffeur de bus? Au début, certains me décourageaient en me disant qu'ils ne prennent pas de femmes. Mais malgré tout, j'ai toujours cru que je pouvais y arriver et aujourd'hui, j'y suis.
Sophie Diouk trône désormais au volant des imposants bus de Dakar Dimdik. Face aux préjugés des clients, Sophie peut compter sur la confiance de sa direction. Momodou Siley Anne, responsable de la cellule de communication de la Société publique des transports, estime que seule la compétence compte.
Une communauté faite d'hommes et de femmes. Malheureusement, nous avons un métier qui est très orienté genre masculin, pour ne pas faire de qui, mais voilà, les gens, les innovations sont en train de venir. Et la seule condition qu'on a posée sur la table, c'est qu'elle remplisse, qu'elle puisse avoir son permis de transport en commun et qu'elle ait les aptitudes techniques et les tests techniques qu'on a fait pour pouvoir être recrutée. C'était le seul critère. Maintenant, il y a un travail d'adaptation, c'est à elle de le faire, c'est à elle de prouver qu'elle a sa place parmi nous.
La population et les usagers des bus de transport en commun devront dorénavant s'habituer à la junte féminine. La société Dakar Dimdik, qui gère les transports publics, compte renforcer ses effectifs avec un contingent de femmes receveuses pour répondre aux défis de l'équilibre social. Seydina Abagay, à Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.